Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Journée des casques bleus, la population partagée sur le maintien de la mission au Mali. 190 casques bleus ont perdu la vie au Mali du fait d'actes hostiles de 2013 à nos jours. Ce chiffre a été annoncé le 29 mai dernier lors de la journée mondiale des casques bleus. Cette journée intervient sur fond de contestation à Bamako et à l'intérieur du pays. Des civils exigent le départ des troupes de l'AMINISMA. Ses responsables déplorent les appels à la violence contre la mission. On en parle dans ce grand dialogue. Nos invités, Alousseni Gundo, du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Daouda Kinda, politologue, et Dr Oumar Toumali Diallo, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako, au téléphone. À la présentation, je suis Miranaki Lomaïga, invité auditeur, téléspectateur. Merci de nous avoir suivis sur 85 radio et 3 télévisions.
Le Grand Dialogue.
Cette journée est célébrée au moment où des voix se lèvent pour demander le départ de l'AMINISMA pour le représentant spécial des Nations Unies au Mali. Même si ces manifestations relèvent de l'exercice des droits fondamentaux, les initiateurs ne doivent pas faire des appels à la violence contre la mission, suivant la réaction de El Ghassim Owan, chef de l'AMINISMA.
Que les gens s'expriment pour ou contre la mission, qu'ils manifestent contre la mission, aussi longtemps qu'ils le font pacifiquement, je pense que ça relève de l'exercice de droits fondamentaux. Ce qui est inacceptable, ce sont les appels à la violence contre la mission. Dangereux, dangereux parce qu'ils compliquent notre tâche d'appui aux autorités maliennes, au peuple malien, dangereux parce qu'ils mettent en cause la sécurité de nos personnels, y compris nos personnels maliens. Et c'est pour cela que le message « La paix commence avec moi » a aussi une résonance particulière, c'est une manière de dire que chacun, chacune d'entre nous doit se comporter d'une manière qui rende la paix possible.
Daouda Kinda, quelle analyse faites-vous de cette déclaration du représentant spécial des Nations Unies au Mali ?
Alors, je tiens tout d'abord à rendre un vibrant hommage à tous ces soldats de la paix des Nations Unies qui sont tombés de 2013 jusqu'à nos jours. Sur notre sol et à nos propres soldats et tous ces civils qui sont victimes de cette situation de crise sempiternelle depuis 2012 jusqu'à nos jours. Voilà, donc par rapport à ma réaction, je reste un peu mitigé parce que là, si vous regardez un peu le timing du déploiement de l'AMINISMA au Mali qui en est à, pratiquement à 10 ans, et jusque-là, avec ce ressentiment de rejet de la population, d'une partie de la population, il faut le signifier, pas totalement l'entièreté de la population malienne, je reste quand même un peu désemparé de voir le boss de l'AMINISMA ici tenir de tels propos. Cela dénote un peu du surplace, d'un manque de résultats probants, d'un manque de, si on peut dire, ce dont la population s'attend n'est pas comblé en termes de résultats. Donc c'est quand même quelque chose de déplorable. Il faut le dire par rapport à ce qu'il vient de dire, il faut le signifier. C'est quand même déplorable que un pan entier des gens qui sont censés être des responsables dans notre transition puisse appeler à faire violence contre les Nations Unies. Il faut le dire, les Nations Unies sont là avec l'accord de nos autorités actuelles et passées. Chaque année, ce n'est pas pour rien qu'on renouvelle leur mandat. Appeler à faire des violences contre le mandat de l'AMINISMA, c'est comme si on appelait à faire violence d'une part contre les autorités de la transition et leur volonté. Parce que, qu'on le veut ou non, l'AMINISMA joue bien et bien un rôle dans la situation actuelle du Mali. Elle l'a joué, elle continue à la jouer, malgré s'il y a des difficultés, bien sûr, qu'il faut corriger. Mais cela n'empêche que sa présence est nécessaire actuellement dans notre pays.
À Luceni, Daouda reste mitigé, désemparé suite aux propos du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Et vous, quelle lecture faites-vous de cette déclaration que vous venez d'écouter?
Oui, je dirais naturellement à toutes d'ailleurs que notre liberté commence là où commence celle des autres. Il faudrait quand même respecter cela. Nous sommes régis par les droits, non seulement des droits nationaux, mais aussi les droits humanitaires internationaux. qui garantissent tous les droits à la sécurité de la personne, de sa vie, de ses biens. Alors du coup, voir des gens appelés quand même à s'attaquer à l'aménagement de façon verbale ou d'une autre façon, quand même, c'est dépassé. Il faut le dire, mais la question qu'il faut se poser est que les gens qui tiennent de tels propos attentatoires à la paix et à la cohésion nationale, qui sont dans ces pays et que l'État observe sans dire mot, c'est ce qui n'est pas surtout à tolérer, puisque ce qui engage l'aménagement d'une part et d'autre part engage aussi les Maliens. C'est une question des droits de l'homme, c'est une question du droit humanitaire international. Et on est régi aussi par des textes et des lois. Et au niveau de l'aménagement, ce sont des hommes qui y vivent et qui parlent de l'homme, parlent de droit. Et toute vie est à sauver. Mais quand il y a des gens, au nom du contre l'aménagement, tiennent des arguments au point d'appeler les gens à s'attaquer aux locaux de l'aménagement ou à s'attaquer aux travailleurs de l'aménagement, pour moi, c'est contre-productif vraiment. Et il faudrait que ces arts de comportement cessent, car c'est vraiment des comportements qui sont handicap à la paix. Et le thème qui a été choisi à cette occasion de la journée des casques bleus pour dire « Peace begins with me », pour dire que la paix commence par moi, et c'est un très bon thème. C'est un très bon thème pour dire que chacun, dans ses mots et dans ses actions, doit faire prévaloir la paix. Et aujourd'hui, le pays, d'ailleurs le monde entier, est épris de paix, de la sécurité et de la stabilité. Et donc nos mots et nos actions doivent concourir à la paix. Mais si je dois tirer une conclusion par rapport à cela, c'est de dire que je suis tout à fait d'accord avec les arguments avancés par le secrétaire général des Nations Unies ou le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Et c'est de dire aux autorités de la transition qui sont garants des lois qui nous régissent avec le monde entier, vraiment de faire attention à ce que certains d'entre les mouvements ou les organisations dans ces pays disent vis-à-vis à l'international pour ne pas amener notre pays vers des destins inconnus.
Docteur Oumar Toumali Diallo, vous vous êtes au téléphone, vous avez entendu ce que dit le secrétaire général, vos co-débatteurs qui sont sur le plateau, notamment Daouda Kinda, qui reste mitigé et désemparé suite aux propos du représentant du secrétaire général, et Alousseini Guindo, qui est d'accord sur les arguments avancés du secrétaire général, du chef de l'aménagement. Et vous, quelle lecture faites-vous de cette déclaration que vous venez d'écouter?
Alors, je commence par dire bonsoir à chers collègues débatteurs, à la partie technique, à vous aussi, et à tous les auditeurs. Mon analyse sur les propos tenus par le représentant spécial du secrétaire général, moi je vais dans le même sens que M. Kina. Parce que en réalité, il faut comprendre aujourd'hui la position de la majorité de la population malienne, c'est de comprendre quel est effectivement le rôle que joue l'aménagement dans la stabilisation de notre pays aujourd'hui. Si on prend certains faits dans certaines contrées du Mali, vous allez vous rendre compte que l'aménagement, malgré les moyens colossaux dont elle dispose, n'arrive pas vraiment à satisfaire aux besoins de la population. Une force d'interposition, oui, mais aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là qui se posent la question, la France est partie, mais est-ce que l'aménagement ne fait pas, ou encore l'aménagement ne suit pas l'ordre de la France? Pendant qu'aujourd'hui, et les Maliens, nombreux sont les Maliens qui ont pensé à un moment donné que la crise n'est pas malienne, mais plutôt la crise, elle est occidentale. Donc du coup, quand on écoute la déclaration du représentant, le représentant, il déclare que c'est pour les sauver eux-mêmes. Mais nous qui sommes les Maliens, alors le problème nous concerne, nous sommes à longueur de journée touchés par les attentats et on est obligé souvent de manifester notre mécontentement. Parce qu'on sait très bien que ces organisations qui s'énervent pour faire des déclarations ne sont pas invitées pour aller alors au renouvellement du mandat de l'aménagement. Mais ce sont les autorités qui nous représentent. Et ces autorités-là sont les voix les plus crédibles pour demander le départ de l'ARNICHMA. Donc du coup, j'ai beaucoup de réserves par rapport vraiment à cette déclaration qui, à mon avis, est un coup de cœur.
Des appels à la violence, comme cela a été dit par le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali, ont-ils été lancés contre la mission? La question vous est posée.
Pardon?
Des appels à la violence, comme cela a été dit par le secrétaire général, par le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali, ont-ils été lancés contre la mission au Mali?
Et je ne peux pas parce que je n'ai pas suivi alors les mouvements, c'est possible. Et que ce soit avec les Yerewoloto ou encore avec d'autres mouvements qui...
On va vous rappeler, on va vous rappeler parce que le réseau commence à dégrader, on vous entend mal. Alors, y a-t-il des...
Moi, je vous reçois très bien.
D'accord. Y a-t-il réellement des violences lancées contre l'AMINISMA?
Bon, les violences, bien sûr, il y en a eu. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. On a vu, il y a de cela
des violences années. Ou des manifestations.
Oui, il y a eu des manifestations à Gao, il y a eu des jets de pierre contre les véhicules de l'aménagement. À Banyangara, il y a eu une très grande manifestation contre l'aménagement, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, l'année passée. Voilà, donc ces genres de manifestations ou d'attaques contre... L'aménagement sont récurrentes. Ce n'est pas au Mali que ça a commencé, dans beaucoup de pays. Dans les années 2000, il y a eu une prise d'otage des soldats de la paix en Sierra Leone. Ils ont été pris en otage. Donc l'aménagement, ça dénote un peu de la taille de cette institution-là qui est les Nations Unies, de toutes les difficultés qu'elle trimballe depuis sa création en 1945 jusqu'à nos jours. Les gens oublient une chose, c'est que ce processus, ce mécanisme de maintien de la paix ne faisait même pas partie de la charte des Nations Unies à la base. C'est quelque chose qui a été innové dans les années 1956 avec la crise du canal de Suez. Donc l'aménagement est à l'image de l'institution mère qui est l'ONU, qui n'est pas une institution. Les gens peuvent le contredire des fois, mais ce n'est pas autant démocratique que ce soit. C'est une institution géopolitique et géostratégique où les grandes puissances sont à l'œuvre pour préserver leurs intérêts. Qu'à cela ne tienne, on a vu à Bamako, sur ce dossier précis, qu'à Bamako, qu'il y a certains mouvements qui ont appelé à attaquer les symboles ou les agents ou les véhicules de l'aménagement. Cela est un fait avéré. Mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est quelque chose qui est généralisé dans la population malienne. Ce n'est pas quelque chose qui est partagé par la population en général, notamment actuellement avec le départ de la France, comme l'a dit monsieur le docteur Diallo. Beaucoup de ces gens qui sont au nord se demandent que la France est partie, mais il n'y a pas eu d'amélioration. On croyait que si la France partait, il y aurait une amélioration sur le terrain. Quand même, les gens allaient s'en sortir. Mais avec le départ de la France, il y a pratiquement un an, les choses n'ont pas changé. Au contraire, beaucoup de situations se sont empirées. Donc, beaucoup de gens actuellement dans ces zones-là se demandent, est-ce que le départ de l'aménagement aussi va être salvateur? Donc, la réserve, le grand réserve par rapport au départ de l'aménagement, c'est de ce côté-là. Mais à Bamako, beaucoup de gens crient, tapent du poing sur la table pour que l'aménagement puisse dégager.
Pour le chef de l'aménagement, l'environnement dans lequel la mission opère aujourd'hui est devenu extrêmement dangereux. Il est en particulier pour l'aménagement du fait de l'omniprésence de la menace terroriste. Est-ce le cas aujourd'hui?
Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier aussi que le mandat de l'aménagement ne couvre pas pratiquement l'activité terroriste. L'aménagement, dès son déploiement dans les années 2013 au Mali avec la formule MISMA, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur le terrain. Le phénomène djihadiste à cette époque, c'est vrai, il y a eu l'occupation de Gao par Henri Sandir et autres, mais le phénomène djihadiste n'était pas autant métastasé. Actuellement, les terroristes, notamment dans le septentrion, dans la zone des trois frontières, les terroristes ont le vent en poupe, c'est eux qui mènent la danse là-bas. L'aménagement n'a pas ce mandat, d'où cet appel de beaucoup d'autres autorités, que ce soit les autorités maliennes ou que ce soit le président Macky Sall avant qu'il ne quitte la présidence de l'Union africaine. Il a lors de l'Assemblée générale, Assemblée générale des Nations Unies, il a appelé à donner un mandat robuste à la MINUSMA pour combattre le terrorisme. Il faut dire qu'il y a les instruments et le mandat qui est donné à la MINUSMA ne permet pas à la MINUSMA de faire face au terrorisme. Alors que les terroristes actuellement, les groupes armés terroristes sont pratiquement, si on peut dire, à 80% de l'instabilité et de, en termes de victimes civiles et autres dans ces zones. Donc il va falloir qu'il y ait cette réflexion au sein de la MINUSMA et de l'ONU pour pouvoir parer à ce problème du terrorisme. Parce que le terrorisme, ça n'a même pas une définition en termes internationaux. Le terrorisme n'est pas un phénomène défini juridiquement sur le plan international. Parce qu'un groupe peut être terroriste quelque part et ne l'est pas d'autre part. Si je prends exemple sur le Hamas, qui est accepté par beaucoup de pays arabes, mais qui est vu par les États-Unis et beaucoup de pays occidentaux comme étant un groupe terroriste. On peut remonter jusqu'à l'apartheid avec le Mouvement National de Libération, la ANC, qui était vu comme étant un groupe terroriste par beaucoup d'autres. Donc, il y a cette incongruité dans le phénomène terroriste et en termes de géopolitique, géostratégie, qui complique la tâche à la MINUSMA actuellement.
Docteur Oumar Toumali Gallo, pour le responsable de la MINUSMA, le fléau de la désinformation et de la mésinformation complique l'exécution de son mandat et l'appui aux efforts des autorités maliennes et au peuple malien. Est-ce à dire que si ces menaces continuaient, la mission arrêterait d'apporter son soutien au Mali?
Sur la question des désinformations, et là je serais peut-être d'accord avec lui parce qu'en réalité il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur le terrain et la vraie réalité n'est pas connue par la majorité donc des citoyens. Et aujourd'hui même nombreux sont ceux-là qui crient pour vraiment contester la présence de la MINUSMA, mais en vrai dit, il faut reconnaître quand même qu'ils ne sont pas informés réellement sur les actes qu'ils posent.
Malheureusement, le téléphone nous a...
Le cas, par exemple, de la livraison des denrées dans des localités inaccessibles à travers les véhicules terrestres. Et si ce n'est pas maintenant que l'avion, avec les autorités actuelles, et avant, l'aménagement transportait beaucoup de vivres dans des localités alors inaccessibles par nos autorités. Donc aujourd'hui, quand même, avec les aéronefs reçus par les autorités diplomatiques, ils parviennent quand même à faire beaucoup de choses sans la MINUSMA. Mais avant, il faut reconnaître quand même aussi les bons moments passés par ces gens en termes d'acheminement des denrées alimentaires, des produits de santé, ainsi de suite. Ah, même quand même, là, ça serait utile. Mais dans d'autres domaines, par exemple, de la sécurité dont on parle, et il faut reconnaître là que malgré les efforts fournis, la population reste encore sous-informée sur la vraie réaction de l'aménagement, même si on reconnaît quand même qu'elles ne sont pas là pour combattre les terroristes.
D'accord. Alors, oui. Alors si c'est, les manifestations contre la MINUSMA pourraient-elles avoir un impact sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA attendu le 30 juin prochain?
Moi, je pense que les autorités sont les mieux placées pour connaître l'importance même de la MINUSMA sur place. Parce qu'on peut être dans la rue et beaucoup d'éléments peuvent nous échapper. Mais au sein de l'administration, la réalité, c'est autre chose parce que on sait souvent qu'on est incapable de faire certaines choses et qu'on a besoin des partenaires. Alors le rôle que jouent les partenaires sur le terrain, si l'aménagement est au centre de vraiment de ces mouvements. Alors c'est aux autorités de juger positivement si c'est nécessaire que l'aménagement arrête. Mais si au contraire les autorités trouvent que l'aménagement ne joue pas pleinement son rôle, je pense que ce sont ces autorités-là qui sont mieux placées pour déterminer le sort de l'aménagement au Mali.
Alousine Guindou, docteur Oumar Toumali Diallo disait tout de suite que sur le domaine de la sécurité, les populations restent encore sous-informées de la mission attendue de l'aménagement 10 ans après. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette mésinformation de la mission des Nations Unies au Mali?
Merci pour la question. Et je rebondirai par rapport à la seconde question qui était de savoir est-ce qu'il y a eu des violences lancées à l'endroit de l'aménagement. D'abord, il faudrait comprendre que la question de l'aménagement est d'un commentaire que n'est pas du tout à contredire que c'est ambivalent. L'aménagement est vu à la fois positif et à la fois négatif au Mali. S'agissant des violences qui ont été perpétrées contre l'aménagement, que ce soit ailleurs et ici au Mali, il faudrait retenir depuis le cas de Gao arrivant à Bandiagara, que même si à Gao l'aménagement a riposté face aux violences qui ont été perpétrées à son encontre, mais à Bandiagara, ça n'a pas été le cas. Donc, voir des gens lancer des menaces à l'endroit de l'aménagement pour nous qui sommes souciés de paix, puisque qui parle de sécurité parle de paix, qui parle de gouvernance aussi parle de paix. Et ces facteurs ne peuvent pas vraiment être profitables à l'ensemble de la population malienne en tant que la sécurité n'est pas, en tant que la paix n'est pas. Donc, tout comportement de nature à nous éloigner de la paix est contre-productif. Voilà pourquoi, et moi, je me prends là-dessus pour dire que toute action de nature à violenter l'aménagement, que ce soit physique ou que ce soit verbal, comme il y en a eu, d'ailleurs il y a des gens qui ont dit qu'il faut que les jeunes s'élèvent et qu'ils partent s'attaquer aux locaux de l'aménagement à Sévaré, après l'attaque qui a été perpétrée contre la position de l'aéroport, y compris nos FAMA. Et vu la déclaration qu'une bonne dame a faite aussi aux tribunes des Nations Unies, Mme Aminata Diko, il y a eu un groupe d'activistes réunis ici à Bamako qui avaient dit la dame qui était cassée dans les locaux de l'aménagement, que si elle ne sortait pas, et entre jeunes, allaient se mobiliser pour aller délocaliser la femme là dans les locaux de l'aménagement. Alors que nous sommes régis par la loi, comme j'ai allé dire au début. Donc des comportements ou des actions de nature à nous éloigner de la paix doivent être évités. Ce n'est pas que notre pays seul qui est épris de la paix et de la sécurité. Je dis que c'est le monde entier qui est épris de paix et de la sécurité. Mais il n'y a pas de débat sur la question que l'aménagement est perçu à la fois positive et à la fois négative. Et sur ces questions, c'est seules nos autorités qui doivent trancher pour éviter que les populations entre elles-mêmes ne se divisent. Puisque aujourd'hui, vous le constatez, s'il y a des jeunes du côté du sud qui disent que l'aménagement n'a qu'à partir, mais il y a des jeunes du côté du centre ou du Nord qui disent que non, l'aménagement doit rester. Et même au niveau du centre et du Nord aussi, la jeunesse est divisée ou les opinions sont divisées, puisqu'il n'y a pas que des jeunes qui se prononcent sur cette question de l'aménagement. Donc c'est pour dire que nos autorités à un niveau doivent vraiment user de ce qui va dans l'intérêt supérieur de la nation à dire que les actions qui sont contre-productives à la paix n'ont qu'à être cessées par qui de droit. Lancer des menaces verbales à l'encontre de l'aménagement dans un pays qui est déjà épris de paix, qui est instable et qui est en insécurité totale, ne nous amène pas vers la paix. Ou appeler les gens à violenter les locaux de l'aménagement ou à s'attaquer aux locaux de l'aménagement, même si ça a été fait ailleurs, ça ne doit pas être fait ici. D'autant plus que nous sommes régis par des règles et qui sont édictées par des lois. Et autre chose, tout ce qu'on peut obtenir par la violence, moi je pense que naturellement on peut aussi l'obtenir par l'intelligence. S'il y a quelque chose qui ne sied pas avec les questions de l'aménagement ou les actions de l'aménagement, que les autorités qui sont les premiers garants à garantir la politique bénéfique au peuple malien se prononcent sur la question de l'aménagement par rapport à ce qui est bien ou à ce qui ne l'est pas. Maintenant, revenant à la question de la désinformation, c'est pour dire que la tâche est partagée. L'aménagement, comme le doyen a allé dire, fait des actions humanitaires. D'ailleurs, que d'autres prennent comme point pour dire ceux qui demandent le départ de l'aménagement n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur bain, puisque l'aménagement emploie des jeunes quelque part. L'aménagement contribue aux actions humanitaires quelque part et même aux actions de développement à travers la construction des maisons des jeunes, des maisons des aînés et même les ponts qui ont été sabotés entre Sogobia ou Songo récemment dans la région de Bandiagara ont été réparés sur fond de l'aménagement, y compris beaucoup d'autres volets d'assistance humanitaire, sanitaire, alimentaire, eau potable et autres volets que l'aménagement joue pleinement en termes d'assistance humanitaire et sociale aux besoins des populations victimes des conflits dans ces zones-là. Et donc, cela revient à dire que autant par ces actions que l'aménagement montre au peuple malien qui est bien vu et d'ailleurs qui est sollicité et qui sont salutaires, il faut aussi que l'aménagement informe à l'opinion publique nationale sur ce qui est de son mandat et sur ce qui sont de ses actions. Sans quoi, souvent, d'autres qui, pour des agendas politiques ou qui, pour des agendas que l'on ne sait pas, vont se lever pour battre pavé et demander à ce que l'aménagement quitte à travers des politiques ou des idées qu'ils disent à la population malienne que l'aménagement est là et l'aménagement fait comme ci, comme ça, contre la paix, l'aménagement est l'objet de tel et tel. Bon, s'ils le disent, pour nous, ce ne sont pas aussi les faits de se limiter à les dire par les verbes. Il faut montrer des documents comme quoi l'aménagement est impliqué dans telle affaire mafieuse contre nos autorités ou contre notre armée. Mais ils ne le disent pas, mais ils sortent seulement pour haranguer la foule. Ah, si vous voyez que les lignes ne bougent pas, c'est parce que l'aménagement qui est là.
Docteur Oumar Toumali, c'est sur le plan sécuritaire que l'aménagement n'est pas compris par les populations. D'où le problème.
Évidemment, mais il n'y a pas que sur ce plan de la sécurité que l'aménagement n'est pas comprise, puisque vous pouvez tomber sur d'autres dans ces zones, vous leur parlerez de l'aménagement, ils vont vous dire, bon, et ils ne savent même pas. Et le problème dans les pays, c'est que l'opinion publique, d'une part, est prise en otage par quelques individus ou par quelques organismes qui, pour une question de oui ou de non, battent pavé, souvent pour des questions qui n'intéressent pas même le pays. Par exemple, aujourd'hui, s'il revenait à dire que l'aménagement n'a qu'à quitter le Mali, ça ne revient pas à quelques groupes de battre pavé ou de descendre dans les rues pour dire que l'aménagement n'a qu'à aller. L'argent qu'on met dans ces manifestations à Bamako peut faire combien de forages au centre pour des populations éprises de paix et de stabilité. Donc, ce sont les autorités qui doivent se prononcer sur ces arts de questions d'intérêt public au point d'éviter à ce que les filles et les fils du Mali ne s'opposent. Donc, si vous voulez vous limiter à la seule question de dire que c'est sur l'aspect sécuritaire que la question de l'aménagement n'est pas comprise, non, c'est sur beaucoup plein d'autres, sur beaucoup d'autres aspects que l'aménagement n'est pas comprise, dont les explications par rapport à ce que fait l'aménagement doivent être expliqué par les autorités maliennes et y compris par l'aménagement elle-même, au point de ne pas laisser les populations être prises en otage par quelques individus qui ont des agendas qui ne disent pas leur nom, qui disent que ce qui est admissible ne l'est pas ou ce qui n'est pas admissible l'est. Donc ça aussi, le pays vit ce problème de nos jours.
Ces menaces contre l'aménagement auront-elles un impact sur le renouvellement de la mission?
Bon, cette question, je crois que nos autorités sont mieux placées à la répondre. Mais je dirais que tout simplement, il faudrait éviter des comportements de nature à nous éloigner de la paix, puisque ça n'est pas du tout productif. Et notre pays, dans cette situation, n'en a pas besoin.
D'accord. Ces manifestations contre l'aménagement auront-elles un impact négatif sur la mission?
Bon, je pense pas. Je pense pas. A priori, ces manifestations quand même sont minoritaires, comme je l'ai bien dit. Mais il faut pas oublier aussi l'impact médiatique que ces manifestations peuvent avoir sur la population malienne en vase clos. De façon interne, ça peut amener beaucoup à se dire, vous savez, comme vous l'avez mentionné, la mésinformation qui est différente de la désinformation a beaucoup de terrains fertiles devant elle actuellement dans ce pays. Ça peut changer, je sais pas, l'analyse que les Maliens, le Malien lambda a de cette mission. Cela va m'amener un peu à faire un peu de table rase pour essayer de camper un peu le rôle réel de l'aménagement. Beaucoup ne le savent pas. Il a parlé d'information, d'informer les gens par rapport à ce que c'est que l'aménagement, ce que c'est qu'une opération de maintien de la paix. Les gens ne savent pas. L'aménagement ne se substitue pas à l'État. Le plus gros travail sur le terrain en termes de sécurité, comme vous l'avez si bien dit, le docteur Diallo l'a dit, l'aménagement, son rôle n'est pas sécuritaire. L'aménagement a deux rôles par rapport au renouvellement de son mandat de l'année passée, le 29 juin 2022. Ces deux rôles principaux, le premier rôle, c'est de mettre les conditions en place pour l'application de l'accord de paix. Ça, c'est un. Secondo, c'est d'aider l'État à retourner, c'est-à-dire le retour de l'administration dans les lieux où l'administration n'existe plus depuis le début de la crise. C'est aussi un rôle subsidiaire dans ce sens à protéger les civils. Maintenant, si les gens prennent le temps d'aller lire ce mandat-là,
mais
vous
comment,
verrez bien.
Mais comment l'aménagement peut protéger les civils alors que l'aménagement ne peut pas se protéger elle-même?
Aider l'État à protéger les civils, aider l'État au retour de l'administration dans les zones où l'administration n'existe pas. Ce n'est pas à l'aménagement de le faire, mais d'aider, d'accompagner l'État dans ce sens. Et cela est bel et bien mentionné dans le mandat. Le rôle principal revient à l'État de protéger les civils au respect des droits de l'homme et à mettre en place une politique générale de développement des zones du centre et du nord. C'est ça le mandat de l'aménagement. L'aménagement n'a qu'un rôle d'accompagnement. Et ce rôle d'accompagnement avec d'autres partenaires, parce que les gens pensent que l'aménagement agit seul. L'aménagement est là, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui l'accompagnent. Notamment, il y avait l'EUTM, il y avait l'Union européenne, il y avait Barkhane. En termes logistiques, en termes de tactique, en termes d'occupation de terrain, toutes ces structures, tous ces partenaires aidaient l'aménagement. Mais avec leur départ, l'aménagement se trouve désemparé. Là où j'ai dit, ce n'est pas ces manifestations qui peuvent, je sais pas, impacter sur le renouvellement du mandat, mais on doit se demander, est-ce que le fait que le Mali ne s'entend plus avec la France, le UTM veut dégager tous ses partenaires, l'Allemagne veut partir, alors que c'est ses partenaires qui financent, en termes de financement même des Nations Unies en globalité, la France est cinquième financier, les États-Unis premier financier, l'Allemagne est troisième financier. Donc, on se demande, avec le départ de ces gens, est-ce que l'aménagement ne serait pas un peu décapité dans ce sens, en termes de mobilité, en termes d'efficacité sur le terrain. Maintenant, si on en vient à la désinformation, il ne faut pas oublier que cette histoire de désinformation par rapport au rôle de l'aménagement est une épine dans le pied, non seulement de l'ONU, mais de beaucoup d'autres partenaires du Mali. Le cas est venu où on disait la France armait les terroristes, le gouvernement malien lui-même a avancé des preuves dans ce sens, mais qu'à cela ne tienne, ce phénomène de désinformation par les masses médias est quelque chose que l'ONU n'est pas préparé pour pouvoir remédier. Donc, c'est quelque chose de très, si je peux dire, c'est un obstacle énorme par rapport à l'application du mandat de l'aménagement sur le terrain.
Vous avez parlé tout à l'heure du respect des droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères a récemment exigé que l'aménagement s'abstienne d'instrumentalisation de la question de droits de l'homme. Cet appel sera-t-il entendu?
Difficilement cet appel sera entendu parce que, comme je l'ai bien dit, l'aménagement a des mandats, l'aménagement a un mandat, et dans ce mandat, le respect, la veille sur le respect des droits de l'homme est un pan entier dans ce mandat. Mais il ne faut pas l'oublier, comment ce mandat doit être appliqué actuellement, avec le départ de beaucoup de partenaires de l'aménagement. L'aménagement n'est pas à même d'implémenter, de faire réaliser ce mandat de contrôle sur le terrain. Beaucoup de choses ont été dites, notamment sur le point crucial qui est les événements qui sont déroulés à Moura. Beaucoup de gens ont critiqué le rapport par le fait que l'aménagement ne s'est pas transporté sur le terrain. Et on voit bien aussi que ce manque de transport du aménagement sur le terrain s'est buté un peu au refus du gouvernement malien pour qu'il puisse être sur le terrain. Mais il faut dire que c'était même pas une enquête, c'était une sorte d'enquête d'établissement de faits. C'est pas une enquête qui peut être identifiée en enquête judiciaire qui ferait un peu, si je peux dire, trancherait s'il y a eu exaction ou pas. Mais c'était seulement une enquête d'établissement de faits. Et moi, je pense que beaucoup ont galvauder le sens qui doit être donné réellement à ce rapport-là.
Okay. Docteur Oumar Toumali Diallo, en plus de la pression de la RI, l'aménagement est-elle capable de gérer la pression accrue des autorités de la transition?
Merci pour cette question. Au-delà de la pression de la rue, effectivement, il faut reconnaître que l'aménagement aussi reçoit des pressions de la part des autorités. Quand on se rappelle que un peu plus de 6 mois après l'expulsion d'Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU pour la stabilisation au Mali. Et ensuite, il y a eu également les tours de Guillaume Kefa, chef qui était aussi à la division, même à la tête de la division des droits de l'homme et de la protection, voilà, qui a été également chassé du pays. Donc, c'est pas la rue qui l'a chassé, mais plutôt cette fois-ci, ce sont les autorités de la transition et qui ont vraiment remercié ces responsables de l'aménagement. Donc, du coup, on peut également faire un clin d'œil pour comprendre également que la position de la transition vis-à-vis de l'aménagement encore très floue ou encore de phase ou encore mitigieuse. Parce que selon le gouvernement, l'aménagement quand même doit attendre à des conclusions très claires avant de se prononcer sur ces questions-là. Quand on prend le cas du rapport de Moura, par exemple, il y a eu des déclarations par-ci, par-là, et surtout de notre gouvernement pour dire que alors les enquêtes sont en cours, les enquêtes n'ont pas encore pris fin, et qu'au niveau de la Nation Sud, nos accusations n'étaient pas bien. Voilà. Donc il y a une pression quand même autour de l'aménagement, de l'enforcement de la transition, des autorités de la transition.
D'accord. Si les Nations Unies devaient voter le non-renouvellement du mandat de l'aménagement, quelles peuvent être les conditions?
Pardon?
Quelles peuvent être les conditions si les Nations Unies devaient renouveler le mandat de l'aménagement?
D'abord, il y a eu un premier souci parce que le Mali, la France est défendue.
Le réseau commence à se dégrader. Vous pouvez bouger un tout petit peu?
Ah bon?
Alors, c'est bon. Allez, continuez maintenant. Hein? Continuez maintenant.
Ah, ok. Je dis d'abord qu'il y a eu un premier faux départ, parce que la France, le Mali dit que la France n'est plus alors son porte-parole au porte-plume au niveau des Nations Unies. D'habitude, c'est la France qui défendrait ces dossiers. C'est le Mali, cette fois-ci, qui va défendre lui-même son propre dossier.
On va vous revenir. Malheureusement, le réseau se dégrade. Vous nous entendez très bien, mais nous, on a du mal à vous entendre bien. Voilà, Alousseini, quel désagrément le non-renouvellement de l'aménagement a pu causer sur le maintien de la paix et de la stabilité au Mali?
Bon, je crois bien que Imran, cette question, elle serait mieux répondue par nos autorités, mais je tenterai qu'à cela ne tienne de la répondre. Et nous, dans notre constat sur le terrain, l'assistance humanitaire et sociale que fait cette mission onusienne au Mali est très bien sollicitée. Elle est très bien sollicitée. Et d'une autre part, le phénomène aussi de cette grogne sociale qui explique un peu cette montée du fléau du banditisme ou du djihadisme ou encore le terrorisme, si on peut le dire ainsi, s'explique aussi par le fait que beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi. S'explique aussi par la pauvreté et beaucoup d'autres phénomènes qu'on pense et qu'on vise aujourd'hui à travers l'assistance sociale et humanitaire que fait cette mission onusienne au Mali par l'aménagement et couvre à ce qu'il n'y ait pas vraiment de problèmes allant dans ce sens. Donc du coup, le non-renouvellement du mandat de l'aménagement va jeter ces jeunes qui sont d'une manière employée par l'aménagement et d'une autre aussi manière les assistances que font cette force onusienne dont notre État ne parvient pas à faire sur toute l'étendue territoire du territoire malien, donc risquerait vraiment d'être vraiment mal perçu, et cela n'est pas sans conséquence sur les populations établies dans ces zones qui ont besoin de l'assistance alimentaire, comme j'ai allé dire, de l'eau et aussi du sanitaire et aussi d'autres plans que cette mission assiste à nos autorités. Et d'ailleurs, elle assiste à nos autorités sur d'autres plans, notamment les logistiques, et avant même que nous soyons à cette hauteur en termes d'équipement militaire, n'oublions pas quand même que nos militaires blessés étaient évacués par les engins de l'aménagement, y compris d'autres assistances sur d'autres aspects logistiques que cette force onusienne faisait beaucoup, beaucoup pour nos autorités.
Que faut-il craindre si l'aménagement venait de partir?
Donc il faudrait craindre ces vides-là. C'est vide en termes d'assistance sociale et en termes d'assistance humanitaire et même en termes d'assistance gouvernementale que l'aménagement apporte à nos autorités, qui n'est pas du tout cassé. Et surtout, à ne pas se voler la face que nous sommes dans un monde interdépendant. Aujourd'hui, aucune nation ne se suffit à elle-même. L'interconnexion, l'interdépendance entre les pays, entre les nations est vraiment n'est pas à discuter, il faut le dire. Et sur des questions géostratégiques, l'aménagement, même si elle ne sera pas là, il faudrait comprendre qu'avec d'autres pays qui sont dans cette organisation, qui ont aussi des intérêts au Mali, ne resteront pas en marge de cette conséquence aussi. Donc du coup, penser au renouvellement du mandat de l'aménagement ou à ce qu'elle reste ici, moi je pense que c'est l'option la plus favorable qu'elle soit défavorable.
D'accord. Daouda Kinda, que peut être l'apport de groupes armés dans cette situation, de groupes armés signataires notamment de l'accord pour la paix et la réconciliation dans cette situation de l'aménagement, du maintien ou non de l'aménagement?
Bon, je crois qu'eux, ils sont positifs par rapport au maintien de l'aménagement, à ce que si on s'en tient à leur déclaration officielle, parce que le rôle principal, comme je l'ai dit tantôt, de l'aménagement, c'est surtout de veiller à l'application de l'accord. Et on sait que ces groupes armés, je parle des groupes armés issus de l'ex-rébellion au nord, eux, ils sont dans la lignée de l'application de l'accord d'Alger, principalement. Il ne faut pas l'oublier, cet accord a toute une sorte d'armada de réformes institutionnelles, en termes de référendum constitutionnel, en termes de plus grande liberté donnée à ces régions du Nord pour qu'ils puissent décider de leur sort. Je crois que eux, leur rôle, surtout en termes de faciliter un peu le travail de l'aménagement, c'est surtout de se plier au terme de l'accord d'Alger.
D'accord. Cette émission tend vers sa fin. On me signale qu'il nous reste 3 minutes. Comment concilier les deux positions selon vous?
Comment concilier les deux positions?
Notamment il doit, celui du Mali et de l'aménagement.
Il ne doit même pas avoir d'opposition parce que, comme on l'a dit, l'aménagement est là parce que les autorités maliennes l'ont accepté. Comment les concilier? Il va falloir que chacun joue franc jeu. Il y a une rupture de confiance entre les deux camps alors qu'il ne doit pas avoir de ces deux camps dans cette situation. Il faut que le gouvernement malien joue de la réelle politique, que le gouvernement malien, là où elle peut accompagner l'aménagement, là où elle peut aider l'aménagement à faciliter le travail, notamment sur le dossier de la désinformation, beaucoup de ces médias peuvent être soumis à des sanctions judiciaires pour que la désinformation puisse cesser. Ça, ce n'est qu'un exemple.
Docteur Oumar Tmali Diallo, comment concilier les deux positions, notamment du gouvernement et de l'aménagement?
Et là où nous sommes, c'est très difficile de dire que le gouvernement malien va essayer de partager avec quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement malien, quand l'autre parle d'une situation géopolitique, géostratégique, et c'est ce qu'aujourd'hui on voit sur le terrain, parce que pour les autorités de la transition, il faut comprendre aujourd'hui que les partenaires qu'ils avaient avant et que les partenaires qui sont là aujourd'hui, et c'est deux partenaires différents, et qu'aujourd'hui, ils ont dégagé 3 principes, que tu sois alors malien ou encore un partenaire venant pour appuyer le Mali, qui doit quand même se retrouver dans ces trois principes et fondamentaux. À défaut de cela, tu ne peux pas être alors avec la transition. D'accord. Donc du coup, si l'aménagement ne se voit pas logé dans ces principes, ça va être très compliqué pour l'aménagement de conjuguer les mêmes verbes que alors les autorités
de la transition. Donc, d'accord.
Ils sont obligés d'aller dans la ligne directive des autorités de la transition.
D'accord. À l'Ousseini, en 30 secondes, comment concilier les deux positions?
Moi, je dirais pour concilier les deux positions, il faut éviter à laisser que la question de l'aménagement soit gérée par la rue au Mali ici. Les autorités sont mieux placées à savoir ce qu'est l'aménagement pour le Mali et ce qu'elle ne l'est pas. Donc, s'il y a des points sur lesquels elles peuvent aller ensemble, alors que les deux forces aillent ensemble dans ce sens. Et s'il y a des points sur lesquels elles ne peuvent pas aussi séminer, que cela soit dit et que chacun respecte la zone de tampon.
D'accord, que chacun respecte la zone de tampon, c'est sur ce mot de Alousseini Guindo que prend fin ce grand dialogue qui réfléchit sur la journée des casques bleus, la population partagée sur le maintien de la mission au Mali. Et nous étions avec Alousseini Guindo du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Daouda Kinda, politologue, Dr Oumar Toumali Diallo, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga. Ce débat a été coordonné par Mariam Maïga, à la régie vidéo et mise en onde Mamadi Keïta et Fili Dambélé. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Mauni.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.